Vont-ils réussir à s'entendre? Russes et Américains négocient cette semaine pour parler de la situation en Ukraine et éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit armé. Bonjour Cécile Vessier.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Ces négociations ont-elles une chance d'aboutir selon vous?
Écoutez, la première journée n'a pas été, je dirais, très positive et ne s'est pas conclue par grand-chose. Je pense que c'est aussi une démonstration de force, c'est-à-dire que les États-Unis veulent dire « si vous touchez à l'Ukraine, nous interviendrons d'une manière ou d'une autre ». Et la Russie campe sur ses positions, peut-être aussi d'ailleurs pour détourner l'attention d'autres terrains, y compris le Kazakhstan. Donc dire que la tension va réellement baisser dans la zone, dans les jours qui viennent, à mon avis c'est un petit peu une illusion. Dans les jours qui viennent.
Hier soir, à l'issue donc de cette première séance de pourparlers, on avait quand même l'impression que chacun était persuadé d'avoir avancé ses pions. C'est du bluff de part et d'autre?
Mais c'est pas du bluff, c'est-à-dire que dans la réalité, ils sont un petit peu obligés de dire ça, je dirais, de dire que leur rencontre sera quelque chose. Mais dans la réalité, ils ne sont tombés d'accord sur rien et ils ne peuvent tomber d'accord sur rien parce que demande la Russie? La Russie demande des engagements. Elle veut que les États-Unis, qui pour elle signifient l'OTAN, donc déjà il y a une espèce de contradiction, s'engagent à ce que l'OTAN ne prenne pas l'Ukraine, ce qui n'est pas dans les projets immédiats, et les États-Unis n'ont pas à s'engager pour l'Ukraine. Et elle voudrait que la situation revienne, comme ils disent, à l'état de 97, en ce qui concerne des armements qui ont été éventuellement déployés, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'armement, puisque les forces ne sont que provisoires. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de dialogue de sourds, en sachant que pendant ce temps, la Russie est désormais présente au Kazakhstan, et c'est là où on se dit, il y a toute une part aussi de cinéma. Pendant qu'on regarde l'Ukraine, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est inquiétant ce qui se passe sur la frontière, on ne voit pas la Russie qui augmente sa pression et surtout qui est présente dorénavant au Kazakhstan, comme elle est présente sous une autre forme au Biélorusse.
Vladimir Poutine a quand même massé des soldats près de la frontière avec l'Ukraine, ça c'est pas anodin tout de même.
Non, mais ça n'a rien d'anodin. La situation avec l'Ukraine n'a rien d'anodin et elle est tout à fait inquiétante. Il a massé des dizaines de milliers de soldats sur le territoire russe, mais à la frontière, ce qui est aussi une façon de narguer tout le monde, si vous voulez, parce qu'il peut dire c'est sur mon territoire, je les mets où je veux, d'accord, mais il sait très bien que il inquiète ses voisins et il les inquiète à juste titre parce que il est intervenu militairement en Crimée, il s'est emparé illégalement de la Crimée, il a envoyé des hommes, il a envoyé des armes dans le Donbass où on a cette situation de guerre qui existe déjà depuis 2014, donc on s'inquiète. En même temps, Vladimir Poutine ne fait jamais les choses au moment où on les attend. Donc, je dirais, est-ce qu'il va se risquer à vraiment lancer une agression militaire classique alors que tout le monde l'attend? Bon, ça, on peut en douter. Mais visiblement, les services secrets américains et les services secrets européens sont très inquiets. Ils pensent ça possible. Il y a des plans qui circulent, des plans d'attaque qui circulent depuis un moment. Donc non, on peut pas du tout ne pas prendre ça au sérieux.
Et en face, est-ce que l'Ukraine a les moyens militaires de résister?
Écoutez, pas vraiment. C'est-à-dire que l'Ukraine, effectivement, a de plus en plus d'aide militaire, notamment des États-Unis, qu'il y a, je dirais, une mobilisation citoyenne. Dans la pratique, non, je pense qu'elle n'aurait pas les forces de résister. Ce qui est, si vous voulez, quand même déplorable, c'est que on en arrive à cette situation. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à cette agression de la Crimée,
Donc en
2014, la Russie et l'Ukraine avaient des bonnes relations et il y avait effectivement certains groupes qui disaient la Russie est notre ennemi, mais je veux dire c'était vraiment tout à fait minoritaire. Il y avait des bonnes relations de voisinage et j'irais même au-delà parce que si vous voulez c'est tout à fait typique de des comportements de Monsieur Poutine et de l'équipe autour de lui. quand M. Poutine dit, et ça a un écho dans la population occidentale, quand il dit « nous ne voulons pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN mm-hmm. », bon, à la limite, on peut le comprendre, mais il faut bien se souvenir qu'avant 2014, la population ukrainienne ne voulait pas rentrer dans l'OTAN. Et on avait énormément de sondages qui le démontraient. La population ukrainienne était de plus en plus tentée par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait bien que la Pologne voisine était un succès économique depuis qu'elle était dans l'Union européenne. Donc oui, ça la tentait beaucoup. Mais tous les sondages l'indiquaient, elle ne voulait pas rentrer dans l'OTAN parce qu'elle savait aussi que ça irriterait la Russie, parce que je veux dire, elle-même était dans l'Union soviétique où il y avait une propagande très forte contre l'OTAN. Et en fait, elle n'a voulu entrer dans l'OTAN, cette population, qu'à partir du moment où elle a vu qu'elle pouvait être agressée par sa voisine. Et donc, si vous voulez, le problème et la question de l'entrée dans l'OTAN se pose réellement parce que M. Poutine a agressé l'Ukraine. Donc, quand il dit maintenant « Ah, nous ne voulons pas que l'Ukraine entre dans une union de défense », il n'avait qu'à pas, d'une certaine manière, l'agresser. Et j'irai même plus loin. Dans les années 90, avait été signé un mémorandum de Budapest, dont la Russie était partie prenante, qui était quelque chose qui prévoyait que l'Ukraine soit une zone démilitarisée. Donc, quand vous posez la question sur l'armée, c'était une zone démilitarisée. Elle a donné toutes ses têtes nucléaires à la Russie, amis, frères, sœurs, comme on veut, en échange d'une garantie que la Russie s'engage à protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et c'est ce mémorandum de Budapest que M. Poutine n'a pas respecté et il a trahi la confiance.
Cécile Vessier, pourquoi l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations ? Pourquoi ce sont les États-Unis qui sont impliqués là ?
Alors, eh ben ça, c'est tout à fait dommage, effectivement. C'est-à-dire que, je dirais, il y a plusieurs aspects. Un aspect, c'est que pour M. Poutine, et je dirais plus généralement pour ses élites dans tous les domaines, l'interlocuteur, ce sont les États-Unis. Ceux à qui ils veulent être comparés, ceux à qui ils veulent parler, ceux à qui ils entendent, avec qui ils entendent partager, je dirais, une arène politique, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que M. Poutine montre, une fois de plus d'ailleurs, à quel point il méprise l'Union européenne et ses pays et ses dirigeants. Mais, je dirais, ça, c'est sa vision des choses, on en a un petit peu l'habitude. Mais je dirais, du côté de l'Union européenne, c'est aussi quand même un sacré échec, parce que ça veut dire que nous n'avons pas de diplomatie, ça veut dire que nous ne pouvons pas effectivement intervenir dans ce type de dialogue. Et le problème également, c'est qu'il y a une énorme division au sein de l'Union européenne entre certains pays, comme la France et l'Allemagne, qui envisagent toujours de dialoguer avec M. Poutine, de remettre les relations au beau fixe, etc. Mmh. Et d'autres pays qui ont été dans l'Union soviétique, je pense par exemple aux trois pays baltes, la Lituanie, Lettonie et Estonie, ou qui ont été dans le bloc soviétique, comme par exemple la Pologne, qui ont l'habitude de traiter avec la Russie, qui parlent le russe, qui comprennent ce qu'ils disent, et qui, eux, ont une attitude beaucoup plus dure en disant « ne négociez pas avec Poutine ».
Merci Cécile Vessier. Ces négociations vont reprendre demain entre Russes et Américains à Bruxelles. Merci à nouveau Cécile Vessier, professeure d'études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. France Inter.